Radio Prague, les informations.
Bonjour, le président tchèque est sous le feu des critiques après avoir accordé une grâce controversée. La famille Mucha propose d'installer l'épopée slave à la gare centrale de Prague. En football, Ligue Europa, le Viktoria Plzeň a concédé un match nul, un but partout contre les Allemands de Schalke 04. Le président tchèque Václav Klaus est vivement critiqué pour une grâce accordée à Anna Benešová, ancienne directrice de l'établissement privé Metropolitan University de Prague, condamnée à une peine avec sursis pour corruption et fraude. Le quotidien Lidové noviny note ce vendredi que Madame Benešová a des liens d'amitié étroits avec la femme du président tchèque Livia. De même, le journal souligne que la raison invoquée pour justifier la grâce, soit qu'elle serait dans l'incapacité de soigner son mari gravement malade, était absurde dans la mesure où une peine avec sursis ne l'empêchait en rien de le faire. Le journal relève que la grâce présidentielle permet à Benešová d'avoir un casier judiciaire vide. Le procureur de la République, Martin Bodlak, en charge de l'affaire, estime que cette grâce est incompréhensible et absurde. Le taux d'inflation en République tchèque s'est élevé à 3,5% en janvier. Il s'agit d'une augmentation de 1,1 point par rapport au mois de décembre dernier. Cette augmentation s'explique en grande partie par la hausse du taux de TVA appliqué sur les biens et services depuis le début de l'année, mais aussi par la hausse des prix du logement. Légèrement supérieure aux prédictions faites à l'origine par les analystes économiques, les chiffres ont été communiqués jeudi par l'Office tchèque des statistiques. Par rapport à la fin de l'année 2011, ce sont notamment les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées qui ont augmenté, ainsi que ceux du logement. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a rendu son verdict dans l'affaire d'un Romais qui se serait suicidé alors qu'il était en détention. D'après la Cour, la police tchèque a commis des erreurs et elle devra payer 500 000 couronnes de dommages à la famille du détenu pour n'avoir pas mené une enquête approfondie indépendante. L'affaire remonte à 2002 où le jeune Rome âgé de 23 ans était soupçonné d'avoir volé un magnétoscope. Après plusieurs heures de détention, il avait sauté d'une fenêtre de 8 mètres de haut alors qu'elle était sous escorte. La famille du peintre tchèque Art Nouveau Alphonse Mucha est en train de préparer un projet d'installation permanente de l'épopée slave dans la gare centrale de Prague. La fondation familiale a l'intention de déposer les plans techniques et visuels à la mairie de Prague en mars. Le petit-fils d'Alphonse Mucha, John Mucha, explique qu'une partie de la famille est tombée d'accord sur l'idée, de même que la direction municipale et la société de développement italienne chargée de la rénovation de la gare Art Nouveau. Les 20 canevas de cette œuvre d'art se trouvent à l'heure actuelle dans un dépôt à Prague après leur déplacement de la ville de Moravský Krumlov l'an dernier. En football, le Viktoria Plzeň accueillait les Allemands de Schalke 04 jeudi soir à l'occasion des matchs aller comptant pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Troisième de son groupe en Ligue des Champions à l'automne, le Viktoria Plzeň, champion de République tchèque en titre, est le dernier club tchèque encore en lice en Coupe d'Europe cette saison. Le match s'est soldé par un score égal, un but partout. Le match retour sera disputé à Gelsenkirchen jeudi prochain. Côté météo, vendredi, jour de fête des Meloslava, c'est un temps couvert qui règne sur l'essentiel du territoire. On traverse et chute de neige selon les endroits. Les températures moyennes varient entre 1 et 5 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite de l'émission avec Anna Kubešta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre dernière émission de la semaine avant de retrouver vos rubriques hebdomadaires pendant tout le week-end. Merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. On retourne à Verdun aujourd'hui avec un nouvel éclairage sur la vie du général Pelé, chargé de former la nouvelle armée tchécoslovaque à partir de 1919. Et puis, samedi, le plus célèbre des réalisateurs tchèques, Miloš Forman, fête ses 80 ans. Portrait de celui à qui l'on doit les meilleurs films de la nouvelle vague tchèque des années 60, comme Les Amours d'une blonde ou encore L'As de pique. Bonne écoute de ce programme. Vous le savez, mardi a été inaugurée au mémorial de Verdun, en France, une exposition consacrée au général Maurice Pellé, un officier important de la Première Guerre mondiale, connu surtout en République tchèque et en Slovaquie pour avoir formé la nouvelle armée tchécoslovaque en 1919. Personnage oublié en France, l'exposition permet de découvrir un homme aux multiples facettes, comme nous le rappelle l'historien Jean-Noël Grandhomme, professeur à l'Université de Strasbourg.
L'exposition sur le général Pellé comble vraiment un vide, hein, parce que c'est un personnage qui est vraiment inconnu des gens qui ne s'intéressent pas de près à la Première Guerre mondiale. Et on découvre quelqu'un de multifacette, bon, un militaire bien sûr, mais aussi un artiste, un diplomate, un père. Je crois que c'est vraiment un beau succès et j'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs.
Comment est-ce que vous expliquez que, justement, général Pellé soit méconnu en France, alors qu'évidemment, en République tchèque et en Slovaquie, il est évidemment très connu. Il y a même des rues qui sont à son nom, par exemple à Prague.
Peut-être parce que, justement, il a beaucoup été en service à l'étranger. Et les Français s'intéressent d'abord à ce qui s'est passé en France. Et de toute manière, la Première Guerre mondiale a quand même tendance à être beaucoup oubliée. Je ne sais pas si les jeunes Français savent tous qui était même Joffre ou Foch. Peut-être le centenaire sera l'occasion de remettre en lumière un certain nombre de figures comme ça autour des grands chefs, en quelque sorte.
Alors grâce au travail justement de sa petite fille, Isabelle Sandy Ford Pellé, qui est quand même conséquent, on découvre aussi grâce au film, grâce à l'exposition, grâce à un livre également qu'elle a publié qui montre justement ses carnets de croquis, justement toutes ses facettes. Et alors on se rend compte par exemple dans ce film ce que peut-être on n'aurait pas imaginé qu'il se rend en Allemagne, il côtoie l'empereur, côtoie Guillaume II. Dans le contexte de l'après-1870, ça peut surprendre.
Oui, effectivement, mais on était entre gens du même monde, alors on se côtoyait et les attachés militaires étaient, c'est assez curieux, invités aux manœuvres où ils pouvaient observer tout ce qui se passait, mais c'était une espèce de spectacle. Et Pellé parlait très bien l'allemand. Donc il avait un contact direct avec l'empereur lui-même et les hauts dignitaires du régime impérial. Et donc on se confiait à lui, mais on lui confiait aussi ce qu'on voulait qu'il répercute à Paris. Hein. Donc il y a des confidences calculées. Mais il arrivait souvent à voir à travers les lignes. Il n'était pas qu'un instrument, il arrivait à avoir sa propre opinion.
Vous disiez justement, dans le cadre de votre conférence, que c'était un personnage très clairvoyant, finalement.
Là, on a vraiment, c'est pas simplement parce qu'on pourrait dire que je l'admire, alors je lui trouve toutes les qualités, mais on a des écrits qui restent et qui sont datés d'une époque qui précède les événements. Donc on peut se rendre compte qu'il a eu une clairvoyance, par exemple, dans le domaine de l'aviation, à une époque où beaucoup de gens, Foch pour commencer, pensaient que c'était un sport, mais que ça n'avait pas d'utilité militaire. Les Allemands s'intéressaient plus aux zeppelins. Il a aussi beaucoup parlé de l'artillerie lourde, ce qui était une des clés de la Première Guerre mondiale. Les Français étaient très en retard. Et il s'est rendu compte aussi de l'état d'esprit des Allemands de l'époque, tellement fiers de leur pays, qui se développe de manière industrielle, commerciale, militaire. Ils sentaient venir une guerre, parce qu'ils pensaient que les Allemands ne se contenteraient pas de ce qu'ils avaient.
Après la mission militaire tchécoslovaque, qui dure finalement, où il est en poste finalement assez peu de temps, hein, 2 ans, et pourtant, ce sont 2 années qui sont un grand tournant pour sa vie, puisqu'il se marie, puisqu'il tombe amoureux également même du pays. Il est envoyé à Constantinople comme ambassadeur, mais il est également malade. C'est une fin de vie assez rapide. Après, il n'a pas une vie, même avec sa femme, très longue en tant que couple. Vous parliez justement du fait, dans le cadre de votre conférence, qu'il était mort de tristesse également. Est-ce que vous pourriez justement un petit peu nous rappeler un petit peu cette fin de vie ?
À la fin de sa vie, il a été atteint d'une leucémie, donc c'était pas une maladie imaginaire. Mais peut-être sa fin a été hâtée par le spectacle qu'il a vu, c'est-à-dire en Europe centrale, la France a eu des positions fortes, des amis, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie. Mais un des grands rêves de la France, c'était aussi un rêve en Orient. Et en Orient, il voit que la France se fait en quelque sorte rouler par la Grande-Bretagne, qui s'octroie les territoires, peut-être pas les plus importants, mais qui rapporte beaucoup, comme l'Irak où on vient de découvrir du pétrole, la Palestine. La France est là simplement pour constater qu'elle n'est plus l'une des 2 ou 3 grandes puissances mondiales, même si elle croit encore l'être. Pellé, lui, se rend compte que la France a pris un coup très dur pendant la guerre, dont elle se relèvera que très difficilement. Et à une époque où tout le monde pense que la France est le grand vainqueur de la guerre, lui, il se rend compte que c'est une victoire un peu à la Pyrrhus. et que finalement, tous ces sacrifices dans la Grande Guerre, il se demande s'ils n'ont pas été en partie inutiles. Et c'est ça qui le tue quelque part, parce qu'il a vu cette souffrance, la mort de tellement de gens, pour finalement un résultat qui est en demi-teinte, et un tel sacrifice ne pouvait pas se terminer en demi-teinte.
C'était donc l'historien Jean-Noël Grandhomme. Je rappelle qu'il est professeur à l'Université de Strasbourg et nous parlait du général Pellé. Un globe-trotter fumant le cigare et qui a dans sa ferme du Connecticut deux précieuses statuettes dorées. Telle est, écrit la presse tchèque, l'image qui nous vient à l'esprit quand nous entendons le nom de Miloš Forman. Au feu les pompiers, vol au-dessus d'un nid de coucou, Amadeus, Valmont, le monde entier connaît les films de celui que l'on pourrait, à juste titre, et même si lui-même déteste le pathos, désigner comme l'un des plus grands tchèques du XXe siècle. Samedi 18 février, le cinéaste Miloš Forman, installé depuis 1968 aux États-Unis, fête ses 80 ans. On retrouve tout de suite Magdalena Hrozinkova qui revient sur sa carrière.
Yes, David.
Dans une interview accordée en 1967 à Prague au journaliste Antonin Lim, Miloš Forman affirmait « À Hollywood, je ne pourrais tourner que des films de troisième catégorie, des westerns, des films d'hémoglobine ou des films policiers. Si je voulais y faire des films comme je l'ai fait ici, je ne tiendrais pas longtemps, je me heurterais à la barrière de langue, à la barrière culturelle. Mais quand même, je suis assez fasciné par l'idée d'essayer, ne serait-ce qu'une seule fois. » En 1967, Miloš Forman est ce bel homme souriant, habillé en jean blanc et en col roulé noir, tel qu'on le connaît des photos. Marié à la chanteuse, actrice et plasticienne Vera Kresarlova et père de petits jumeaux Matěj et Petr, aujourd'hui comédien et metteur en scène renommé, le jeune réalisateur a son actif plusieurs films à succès. L'Audition, L'As de pique, primé au Festival de Locarno et projeté aussi à New York, ou Les Amours d'une blonde. Dans ses comédies, qui virent à la satire sociale, il fait souvent appel aux acteurs amateurs et à l'improvisation. Toujours en 1967, sort le dernier film tchécoslovaque de Forman, Au feu les pompiers, nominé aux Oscars. Coproduit d'abord par Carlo Ponti et ensuite par François Truffaut et Claude Berry, le film sera jugé comme dévalorisant pour la classe ouvrière et interdit de distribution en Tchécoslovaquie. En août 1968, Miloš Forman négocie à Paris le tournage de son premier film à l'étranger. Il prend ensuite le chemin de l'exil et s'installe à New York, en privilégiant, dit-il, la pression commerciale à la pression idéologique. Le succès ne se fait pas attendre. En 1975, Forman reçoit son premier Oscar pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour récidiver 9 ans plus tard avec Amadeus, tourné en partie à Prague. Comment expliquer le succès international des films de Miloš Forman? Voici la réponse du critique de cinéma Michal Prochaska.
Je crois que d'abord c'est quelqu'un qui aime s'imposer, qui aime faire le cinéma, raconter des histoires et un peu aussi du coup conquérir le public, conquérir le monde, conquérir l'Amérique. C'était aussi sa passion de départ qui lui a poussé à faire son trajet, sa carrière extraordinaire. Je crois que c'est quelqu'un qui était à la fois adaptable, qui a su comment s'adapter aux conditions différentes de production, par exemple aux États-Unis, en comparaison avec la Tchécoslovaquie de l'époque. C'est quelqu'un qui a réussi à assumer la rôle d'un directeur international avec sa brillance, avec ses capacités, avec son intelligence. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a réussi à devenir directeur le plus célèbre de la génération de la nouvelle vague tchécoslovaque des années 60.
Orphelin après la mort de ses parents en camp de concentration, Miloš Forman ne cache pas n'avoir jamais surmonté ce traumatisme d'enfance. Outsider lui-même, il faisait des outsiders les héros de ses films, écrit Veronika Bednářová, journaliste qui connaît personnellement le réalisateur. Parmi ses exclus, on trouve aussi bien Mick Murphy, qui se fait passer pour un fou pour échapper à la prison, que Mozart, un génie au milieu de la médiocrité. Son 80e anniversaire, Miloš Forman a choisi de le célébrer dans l'intimité, dans sa demeure du Connecticut, avec son épouse tchèque Martina et ses fils Andy et Jim. Sa dernière visite à Prague date du printemps dernier.
À noter encore que les centres tchèques dans le monde célèbrent également le 80e anniversaire de Miloš Forman. Par exemple, à New York, le mois de février est consacré au plus connu des réalisateurs tchèques. À Bruxelles, une rétrospective est prévue du 7 au 15 juin prochain. On passe tout de suite à la deuxième partie de notre programme en vertu de l'amendement à la loi constitutionnelle qui a été adopté successivement par les deux chambres du Parlement. Les Tchèques auront désormais la possibilité d'élire le président de la République au suffrage universel direct. Pour les uns, cette décision n'est pas dépourvue de risque, tandis que pour d'autres, l'apparemment plus nombreux, elle se présente comme une démarche positive et un certain espoir. La presse est devenue une bonne plateforme pour l'étalage d'arguments pour ou contre ce premier scrutin présidentiel direct dans l'histoire du pays. Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Beaucoup de commentaires apparus ces derniers jours dans les médias soulignent qu'en dépit des apparences, il ne s'agit pas d'une décision révolutionnaire, compte tenu du fait que les pouvoirs présidentiels demeureront les mêmes qu'auparavant, donc assez restreintes. Ceci dit, il y a lieu pour eux de s'interroger sérieusement et largement sur les écueils ou les avantages que celle-ci apporte. Tout en admettant qu'il existe d'assez forts arguments contre le suffrage universel direct, comme l'éventualité de la montée en flèche d'une célébrité ou d'un oligarque s'appuyant sur sa richesse, Martin Komarek du quotidien Mladá Frontanes estime que dans la situation actuelle, les avantages prévalent. Il explique.
Les raisons ne sont ni constitutionnelles, ni philosophiques ou historiques, mais purement politiques. Le prestige de la classe politique est actuellement au point zéro. Donc tout changement de système, tant qu'il ne s'agit pas bien sûr d'un glissement vers la dictature, est positif, d'autant plus qu'une grande partie des citoyens souhaitent un scrutin direct.
Et de rappeler dans ce contexte que les représentants de l'ensemble des partis politiques avaient promis à plusieurs reprises la mise en valeur du suffrage universel direct, sans pourtant jamais tenir jusqu'ici, sous différents prétextes, leurs promesses.
Il serait naïf de croire que l'accomplissement de cette promesse puisse élever considérablement la confiance des gens à l'égard de la démocratie et des partis politiques. Mais quand les choses vont mal, et la politique tchèque va effectivement fort mal, tout changement est source d'espoir. Et pourquoi ne pas croire que les citoyens vont faire un bon choix ?
Dans la même édition de ce journal, Petr Kolman, juriste et professeur universitaire, explique pourquoi il ne partage pas à ce sujet l'enthousiasme d'une grande partie de ses concitoyens et d'étudiants. L'élection du président au suffrage universel direct constitue d'après lui l'introduction d'un élément étranger dans la structure constitutionnelle du pays qui n'est pas fondée sur un système présidentiel.
Le suffrage universel direct aurait un sens si le président tchèque avait d'importants pouvoirs, ce qui n'est pas le cas. En outre, il risque d'approfondir encore davantage la fatigue entre guillemets des électeurs compte tenu du nombre d'élections régionales, municipales, législatives, sénatoriales qui ne cessent de se succéder. Au début, on peut s'attendre à un taux de participation élevé, mais celui-ci aura par la suite tendance à baisser, inévitablement.
Pourquoi modifier un procédé qui fonctionne ? S'interroge-t-il en conclusion, soulignant que l'élection au suffrage universel direct coûtera beaucoup plus cher que celle par le Parlement. Le quotidien économique Hospodářské noviny a donné pour sa part la parole à Aleš Gerloch de la faculté de droit de l'Université Charles, un des rares experts en la matière du droit constitutionnel à soutenir cette élection au suffrage universel direct et qui s'attend à ce qu'elle diminue l'influence des partis politiques. Il estime.
Il y a toute une série d'États qui fonctionnent sur la base d'un système parlementaire et dans lesquels pourtant les gens peuvent choisir eux-mêmes leur président. D'après ce que je sais, aucun d'entre eux n'affronte les problèmes graves que l'on appréhende dans notre pays Il peut arriver, bien sûr, que les gens choisissent, par exemple, un populiste ou encore qu'il y ait des conflits et des malentendus entre le président et le gouvernement. Mais cela peut arriver même quand le président est élu par le Parlement.
La prochaine élection présidentielle en Tchéquie aura lieu au début de l'année 2013, date de l'expiration du deuxième quinquennat de l'actuel président Václav Klaus. Cependant, il n'y a pas que la future élection présidentielle tchèque qui est au centre de l'intérêt de la presse nationale. Dans son agenda international, elle se penche souvent aussi sur tout ce qui marque la situation sur la scène politique française à l'approche de l'élection présidentielle dans ce pays. La dernière édition du prestigieux hebdomadaire Respect brosse, par exemple, un portrait détaillé du candidat socialiste François Hollande sous le titre « Au nom du peuple contre les banquiers ». Les Tchèques ne pourront pas survivre sans les immigrés. Toutefois, ils font tout pour leur rendre leur vie difficile. Tel est le titre d'un article paru dans une récente édition du quotidien Mladá Frontanes, dans lequel son auteur Martin Rozumek, directeur de l'organisation d'aide aux réfugiés, s'interroge sur les conditions des ressortissants étrangers qui choisissent la République tchèque comme pays d'accueil. Il écrit:
en dépit du fait que les Tchèques n'aiment pas vivre avec des étrangers, car à en croire les sondages, ils ne veulent avoir pour voisins ni Ukrainiens ni Vietnamiens, et encore moins de Roms, il est évident qu'ils devront s'habituer à cette nouvelle donne. En effet, selon les données de l'Office tchèque des statistiques, sans les immigrés, la population tchèque serait en déclin déjà depuis 2013.
Un déclin démographique sera d'ailleurs inévitable, même avec l'arrivée d'immigrés, mais son évolution serait quand même moins dramatique et plus lente. Ainsi, suivant le rythme de 20 000 nouveaux venus par an, comme c'est le cas aujourd'hui, le pays aurait dans 100 ans près d'un million d'habitants de moins qu'aujourd'hui. Plus loin, Martin Rozumek signale que les Tchèques cherchent par tous les moyens à rendre aux ressortissants étrangers la vie pénible, notamment en ce qui concerne les procédures d'octroi des permis de séjour et de travail. Il écrit:
nous savons tous que sans main-d'œuvre étrangère, il serait difficile de construire ne serait-ce qu'une seule nouvelle maison. Mais la majorité de ces travailleurs sont embauchés par l'intermédiaire d'agences suspectes qui les arnaquent systématiquement. D'un autre côté, l'État tchèque se comporte mal vis-à-vis des entrepreneurs étrangers. Il n'est donc guère étonnant qu'entre 2008 et 2010, le nombre d'étrangers établis en Tchéquie ait commencé à diminuer. Les Ukrainiens, la communauté la plus nombreuse sur le territoire tchèque, qui nous est culturellement la plus proche et qui s'intègre facilement, commencent à quitter de plus en plus souvent la Tchéquie.
L'auteur de l'article souligne qu'il est absolument nécessaire que la République tchèque définisse les priorités de sa politique migratoire. Elle doit déclarer combien de ressortissants étrangers et de quel pays elle veut prioritairement accueillir et créer pour cela des conditions transparentes. Il s'agit par la suite de soutenir leur intégration et de se comporter à leur égard dignement. En conclusion, il écrit:
il faut ouvrir un large débat pour mettre fin à la jungle migratoire. Cet agenda doit être une partie importante du programme de l'ensemble des partis politiques tchèques.
Selon les données officielles, la République tchèque accueille à l'heure actuelle plus de 400 000 ressortissants étrangers qui y vivent légalement. Une étude réalisée récemment par des experts de l'Université Charles révèle que le nombre de ressortissants étrangers qui vivent dans le pays illégalement serait presque aussi élevé.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Tous ces sujets, retrouvez-les sur notre site internet sous forme de podcast ou également en streaming ou également sous forme d'articles. Vous le savez, c'est au www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.